Mimi, t'écoutes jamais quand je parle.
Si, si, mais là, c'est l'émission qui commence.
Imaginez, vous vous réveillez un matin avec ce petit vertige qu'on a tous connu un jour. Rien de grave, sans doute, mais à qui le dire ? À qui confier cette fatigue qui s'installe, cette douleur peut-être qui revient, ce moral qui se fait la malle ? Et puis vous réalisez sur votre chaise ou au creux du lit, il n'y a plus de médecin, le cabinet du coin fermé, celui du village d'à côté ne prend plus personne. Alors vous laissez passer les jours, les semaines et vous apprenez à faire sans. Faire sans soins, sans écoute, sans endroit où poser les questions, ou faire le point. C'est étrange comme l'absence d'un médecin devient vite plus qu'une question d'accès aux soins, c'est une fissure dans le sentiment d'être accompagné, d'être vu, d'être considéré. Et dans cette solitude, la santé mentale s'effrite à son tour parfois. L'inquiétude grandit, le sentiment d'abandon s'installe, la peur d'aller plus mal sans savoir vers qui se tourner. La peur de ne pas suffire pour épauler nos proches qui parfois auraient besoin de ce sas-là. Aujourd'hui, avec Sylvain Biel, infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Laval et membre du syndicat Force Ouvrière, on parle de ce désert-là, des salles d'attente pour trouver un médecin et derrière ces portes closes, un peu plus de silence. Ensuite, en seconde partie d'émission, on ira voir du côté de Saint-Herblain où des caves d'un immeuble HLM ont été transformées en champignonnières. C'est le reportage Pensé local de la semaine, signé Michel Sourget d'Alternante, qui raconte comment on recrée du travail, du sens et de la solidarité à partir du sol, littéralement. Et puis pour conclure, puisqu'on le fait toujours joliment ici, vous le savez bien, nous serons avec Jean-Michel Guinaudot qui nous aidera à remettre un peu d'ordre dans nos choix de consommateurs avec la chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne, parce que prendre soin de soi, parfois, ça commence aussi par faire les bons choix, même au supermarché. Voilà, l'auditeur de l'autre radio le sait, c'est l'agité du local qui commence, c'est le rendez-vous que j'ai le plaisir de donner aux oreilles d'ici, aux oreilles curieuses. Je suis Margot, vous écoutez l'autre radio, c'est l'émission quotidienne et l'entretien commence maintenant. Et c'est sur l'autre radio. En Mayenne comme ailleurs, l'accès aux soins devient un défi. Pas de médecin traitant, pas de dentiste, parfois pas de service d'urgence. Quelles conséquences sur notre santé mentale, sur le sentiment de sécurité et de lien social ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sylvain Biel, infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Laval et membre du syndicat Force Ouvrière. Alors Sylvain, déjà bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors Sylvain, vous êtes infirmier en psychiatrie à Laval et membre du syndicat Force Ouvrière. Comment de votre poste vous percevez la réalité du désert médical en Mayenne ?
Vous l'avez dit, en Mayenne comme ailleurs, on fait face au manque de médecins, au manque de professionnels de santé au sens large. Je dirais même que c'est peut-être pire qu'ailleurs, en fait, en réalité, il faut quand même le rappeler. Et en psychiatrie, pour le coup, on n'y échappe pas. En France, aujourd'hui, on estime qu'il manque un psychiatre sur quatre dans les hôpitaux. Nous, en Mayenne et à Laval, c'est 5 médecins sur 6 qu'il manque. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée d'où est-ce qu'on en est. Donc effectivement, les répercussions sont forcément extrêmement visible sur nos patients, ça il n'y a pas le moindre doute.
Quand on n'a pas de médecin traitant ou de dentiste, je le disais, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie psychique des patients que vous voyez ?
Le médecin traitant, c'est quand même le médecin, c'est l'interlocuteur privilégié, c'est la première personne qu'on va voir quand quelque chose se passe mal. Et puis nous, particulièrement en santé mentale ou en psychiatrie, ce sont les proches qui s'adressent au médecin traitant. Et encore tout récemment, moi ça me fait écho à une situation dont on a pu me parler, des proches en difficulté avec un membre de leur famille qui était en très très grande difficulté. Pas de médecin traitant derrière pour coordonner, orienter, c'est une galère infinie.
Et alors, est-ce que l'absence d'accès aux soins peut aggraver ou déclencher des troubles psychiatriques ?
Alors les déclencher, je sais pas, les aggraver certainement, parce que effectivement, enfin le médecin, c'est encore une fois, on a des doutes, on a des difficultés, un proche s'inquiète pour un membre de sa famille ou un ami, que sais-je. Une des premières personnes qui va devoir solliciter, c'est le médecin traitant. Quand on n'en a pas, derrière, comment ça se passe ? Qui va interpeller ? Vers qui on va se tourner ? Comment on va faire pour pouvoir amener son proche vers le soin ? Ça devient tout de suite délicat. Quand on a un médecin traitant, en l'occurrence, on interpelle. Parfois il peut, évidemment c'est de plus en plus rare, mais tout de même il y a encore certains médecins qui peuvent, le cas échéant, se déplacer à domicile, faire une évaluation, interpeller un de ses confrères à l'hôpital, faire un courrier, et les choses se passent beaucoup mieux que lorsqu'on n'en a pas. Quand on n'a personne, on est complètement isolé, esselé, on cherche sur internet comment on peut s'en sortir, on appelle à droite à gauche, mais en fait en vérité c'est le parcours du combattant.
Dans vos rencontres avec les patients, est-ce que vous entendez ce sentiment d'abandon, d'angoisse lié au manque de soins disponibles ?
Oui, bien sûr, on a beaucoup de patients qui s'inquiètent de ne pas soit être évalués régulièrement par leur médecin. C'est vrai, ben, on avait l'habitude il y a encore quelques années qu'un médecin puisse accompagner, réévaluer la situation d'un patient tous les 3 mois quand il était vraiment mal. Aujourd'hui, effectivement, réussir à voir son médecin psychiatre une fois par an, c'est déjà énorme. Donc effectivement, ça peut derrière générer de l'angoisse, de l'inquiétude vis-à-vis de certains patients qui ont aussi des fois besoin de réponses, qui ont des questions par rapport à leur quotidien, par rapport à leurs troubles, à leur traitement, etc. et qui pour le coup doivent attendre énormément de temps avant de pouvoir avoir leur médecin en phase 2. Et puis c'est aussi, encore une fois, on parle, vous l'avez dit aussi, des aidants, des proches, c'est aussi beaucoup d'angoisse pour les proches parce que se retrouver seul à devoir porter tout ce qui se passe autour de nous avec un soit des fois un enfant, un parent qui est souffrant, effectivement c'est très difficile.
Dans les services psychiatriques, vous recevez des patients en crise. Parfois, est-ce que vous voyez des personnes qui arrivent plus tard, plus fragilisées, parce qu'elles n'ont pas trouvé de relais médicaux en amont ?
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas le moindre de doute. Aujourd'hui, en Mayenne, et surtout, moi, je parlerai de Laval pour ce que je connais le mieux, faut savoir qu'en 5 ans, on a fermé la moitié des lits disponibles. Donc forcément, ça implique derrière une forme de... C'est un mot un peu barbare, mais une forme de tri, qu'on le veuille ou non. Les patients arrivent aux urgences beaucoup plus fragilisés qu'avant, avec des troubles beaucoup plus aigus qu'avant. Et face à ça, on a de moins en moins de lits disponibles. Donc forcément, il y a une forme d'évaluation qui se crée, de tri qui se crée déjà aux urgences pour savoir qui est-ce qu'on va pouvoir vraiment hospitaliser et qui va sortir malgré tout. Voilà, on tâtonne. Donc les situations aiguës, évidemment, elles sont là. On voit bien qu'en service d'hospitalisation, les patients qu'on reçoit sont de plus en plus en souffrance. Vont beaucoup plus mal. De toute façon, c'est très clair. Il y a un indicateur qui l'indique très, très franchement. C'est la proportion de patients qui sont hospitalisés sous la contrainte, parce que c'est une des particularités en psychiatrie. Malheureusement, quand un patient perd une forme de discernement, ne va pas assez bien pour pouvoir prendre soin de lui, on peut en arriver, le cas échéant, à proposer aux proches une hospitalisation sous la contrainte, donc à la demande d'un tiers, ou même parfois, c'est même à la demande même du préfet. Et on se rend compte que cette proportion de patients hospitalisés sous la contrainte a vraiment largement augmenté en fait ces dernières années. Aujourd'hui, on a des services de psychiatrie comme Ospal à côté de l'hôpital de Laval, où on va parfois être largement au-delà de la moitié des patients qui sont hospitalisés sous la contrainte. C'est vraiment des choses inédites.
Du point de vue syndical, cette fois-ci, comment est-ce que vous analysez cette pénurie ? Est-ce qu'on parle d'un manque d'attractivité, de mauvaises conditions de travail, manque de moyens ? Est-ce qu'il y a aussi autre chose ?
Le manque de moyens, sans aucun doute, moi je vais forcément l'évoquer, mais et ce manque de moyens, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, parce qu'on pourrait dire, bien sûr on manque de soignants, on manque d'infirmiers, on manque de psychologues, parce qu'on ne parle pas souvent des psychologues, mais par exemple pour voir en consultation un psychologue en centre médico-psychologique, c'est plus de 6 mois d'attente aujourd'hui. Donc même des psychologues, on en manque en CMP. Mais la première des choses que je dois évoquer, c'est le manque de médecins psychiatres. C'est vraiment ce qui nous met en très très grosse difficulté. Et ça vient complètement perturber en fait la chaîne du soin, parce que aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir un maillage, notamment au niveau médico-social, au niveau associatif. On voit qu'il y a quand même quelques budgets quand même qui sont là. On a des personnes dans ces associations ou dans ces structures médico-sociales qui ont la chance d'avoir des budgets pour aller vers des patients qui sont en difficulté, pour les amener vers le soin, etc. Mais sauf quand ils passent la barrière de l'hôpital, quand ils viennent en centre médico-psychologique ou bien interpellent directement les services de soins de psychiatrie de l'hôpital de Laval, finalement, on n'a plus trop de réponses. Donc en fait, on met les moyens pour aller vers le patient grâce à des associations, grâce à du médico-social, grâce à etc. Mais à la fin des fins, une fois qu'on a réussi à convaincre et à amener le patient vers un professionnel de santé, c'est le professionnel de santé qui n'est pas là en fait. Donc la première des choses, c'est effectivement le manque de médecins. Là, on ne s'en sortira pas sans ça. C'est très clair. Donc après, est-ce qu'il y a des enjeux d'attractivité haute ? Oui, très certainement. Enfin, Là, ça nous dépasse en Mayenne, mais au niveau national, on s'aperçoit bien qu'il y a un gros souci. C'est qu'on manque de médecins, ça tout le monde le sait, on le répète, et effectivement, tout le monde le vit dans son quotidien. Mais l'autre difficulté qu'on a en santé mentale, et particulièrement en psychiatrie, c'est que on n'a pas seulement un problème de manque de place en faculté de médecine, on a aussi une crise des vocations claire. C'est une des spécialités où y a des chaises vides. En fait, je sais pas, il faut l'imaginer, c'est qu'en fait, quand les étudiants en médecine passent le concours de l'internat, il y a un nombre de places déterminées par spécialité, et il s'avère que chaque année, depuis déjà maintenant de nombreuses années, on a des chaises vides dans les places de formation de médecins psychiatres. C'est en fait les étudiants en médecine sont rebutés par le fait de devenir psychiatre. Donc il y a un vrai sujet sur pourquoi, qu'est-ce qui fait que des jeunes étudiants en médecine n'ont pas envie d'aller travailler en psychiatrie. Il y a un sujet évidemment peut-être de représentation vis-à-vis de ce que c'est que la psychiatrie. Il y a un sujet aussi de responsabilité, parce que on le dit pas assez, mais un médecin psychiatre, il porte aussi beaucoup de responsabilités. On parlait des hospitalisations sous la contrainte, c'est quand même une forte responsabilité du médecin que de contraindre quelqu'un, lui imposer des soins, lui imposer un traitement, lui restreindre ses libertés. C'est engageant en termes de responsabilité. Derrière, il y a aussi un côté médico-légal, parce qu'on a aussi l'institution judiciaire qui demande des comptes. C'est tout à fait normal, mais en tout cas, il faut qu'on porte ça sur ses épaules en tant que médecin. Donc c'est jamais évident. Et puis il y a aussi évidemment la permanence des soins, et en tout cas pour nos médecins psychiatres à l'hôpital, ça c'est clair, on est tenu, quand on travaille et qu'on est médecin psychiatre, à très régulièrement passer jour et nuit à l'hôpital pour assurer la continuité des soins, et c'est vrai que ça peut être aussi un frein. Donc il y a un gros travail qui va devoir être fait sur effectivement comment retrouver d'attractivité sur la psychiatrie, et particulièrement pour l'exercice en tant que médecin psychiatre. Ça c'est un gros sujet, effectivement il va être temps de s'en occuper.
Alors la dernière fois qu'on s'était vu, l'USICA, un service d'accueil d'urgence des jeunes pour des questions d'urgence psychologique, psychiatrique, était grandement en danger. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Alors, c'est peut-être une petite note positive pour le coup. On a la chance maintenant, on va dire que depuis maintenant plusieurs mois, la pédopsychiatrie nous donne plutôt des signaux positifs. Donc il faut quand même le dire, quand ça va mieux, il faut aussi le dire. Donc en pédopsychiatrie, effectivement, ça reste fragile. Hein. Il manque encore la moitié, encore une fois, on va parler de médecins, mais il manque encore, on a encore la moitié des postes vacants en pédopsychiatrie. Mais tout de même, ça va vers le mieux. On a encore un nouveau médecin qui vient d'arriver. Donc c'est plutôt bien. Il y a des projets aussi. À l'USICA, l'USICA n'a pas fermé. L'USICA est en train de se renforcer avec des professionnels qui tranquillement prennent leur marque. On peut espérer aussi peut-être que le nombre de lits puisse redevenir ce qu'il était il y a maintenant quelques années d'ici peu. Et en parallèle de ça, on a aussi le projet d'ouvrir un nouveau service. Donc c'est pas rien, un nouveau service qui devrait s'ouvrir en 2026 pour pouvoir accueillir notamment les adolescents et les jeunes adultes en souffrance psychique, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet. Donc normalement, on a bon espoir que ça voit le jour très prochainement, et c'est extrêmement positif.
Vous parliez tout à l'heure des chaises vides en ce qui concerne les formations de médecins psychiatres. Comment les soignants, eux présents dans les services, vivent cette pression ? Est-ce que ce manque de relais médical, de relais médicaux, pèse sur leur santé mentale à eux aussi ?
C'est ça. Il y a, comme vous le dites, en fait, en psychiatrie, il n'y a pas que des médecins. Il y a des aides-soignants, des infirmiers, des psychomotriciens, des psychologues, enfin voilà, des assistantes sociales, etc. Et nous, on est là. Alors bon, il y a certaines professions qui sont aussi des espèces rares. Les infirmiers deviennent des espèces rares aussi, mais tout de même effectivement, on est un peu plus présent, et effectivement on a tendance à porter un peu seul parfois des prises en charge. Donc on en arrive à des systèmes D, et à des peut-être des modes dégradés qui s'installent dans le temps. On a énormément, qu'on le veuille ou non, alors on fait avec les moyens qu'on a, mais on voit bien que, par exemple, comme on disait tout à l'heure, en centre de consultation, en CMP, on a beaucoup de collègues, que ce soit psychologues ou infirmiers, qui vont suivre sans appui médical des patients. Donc finalement, l'appui médical, ça va être quand il y en a un, plutôt le médecin traitant, le médecin généraliste, avec qui on fait du lien. Mais effectivement, on n'a pas la chance de pouvoir interpeller le médecin psychiatre comme c'était le cas il y a peut-être 10 ans, où en fait le médecin psychiatre avait quasi forcément un œil sur toutes les prises en charge qui étaient effectuées au CMP, de près ou de loin. Là aujourd'hui, c'est effectivement plus le cas. Je pense qu'on peut dire qu'il y a peut-être 8 ou 9 patients sur 10 qui sont en centre de consultation qui ne verront jamais de médecin psychiatre, parce qu'il n'y a pas de créneau. Donc on est obligé de se débrouiller. Donc se débrouiller, ça se passe souvent par par l'appui du médecin traitant qui fait aussi lui avec les moyens qu'il a. Il n'est pas forcément, il n'est pas spécialisé en psychiatrie, donc effectivement, c'est pas toujours simple non plus pour lui. Mais on essaye tant bien que mal de malgré tout assurer un suivi et c'est très pesant parce que on nous fait porter des responsabilités qu'on ne devrait pas avoir, ça c'est certain.
Et alors quelles solutions paraissent peut-être les plus urgentes pour éviter que cette rupture de soins ne s'aggrave encore aujourd'hui? On a l'impression que la situation est un peu figée.
Comme vous le dites, c'est les, il y a le, on l'a dit, il y a le manque de médecins. Donc il y a déjà comment faire pour former plus de médecins, et ça pour le coup c'est un vrai sujet national. Comment faire pour redorer le blason de la psychiatrie, faire en sorte que des jeunes étudiants aient envie de devenir psychiatre, première chose. Ensuite, il y a quand même un sujet, qu'on le veuille ou non, qui peut peut-être réussir à mettre sur la table. On le voit que ça, c'est le cas dans la médecine libérale et particulièrement vis-à-vis des médecins généralistes. C'est ce sujet un peu tabou de la régulation, de la répartition. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, se pose quand même cette question. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un poste sur quatre de médecins psychiatres est vacant dans les hôpitaux psychiatriques, mais on voit qu'à Laval, c'est... l'écart est vraiment beaucoup plus important. Donc il y a un vrai sujet d'égalité d'accès aux soins. Est-ce que c'est normal ou pas en France de se dire qu'un Mayennais a peut-être 4-5 fois moins de chances de pouvoir avoir un psychiatre que si on était sur la Côte d'Azur ou à Paris? Je pense pas. Donc il y a quand même ce sujet qu'il faut aussi peut-être mettre sur la table, parce que le temps qu'on puisse former de nouveaux médecins, il va bien falloir qu'on prenne des décisions. On va pas rester comme ça et entre guillemets considérer que les Mayennais puissent être des sous-citoyens ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça c'est quand même le deuxième point. Et puis au-delà de ça, c'est nous en Mayenne, à un moment donné, est-ce qu'on attend ces réponses-là et on fait rien en attendant, ou est-ce qu'au contraire on se dit bah mince, on manque de moyens, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a aujourd'hui? Comment on peut faire en sorte de ne pas être en train de subir et réussir à se dire bah être un peu des fois un peu novateur, être un peu force de proposition et pouvoir réussir à se restructurer de façon à peut-être, dans certaines situations, ne pas dépendre toujours d'un avis médical qui ne viendra pas ou viendra trop tard, etc. Comment on peut réussir peut-être de façon collégiale à prendre des décisions sans qu'il y ait forcément toujours de médecin? On peut imaginer qu'un patient, des décisions par rapport à son orientation, par rapport à un appui dans différentes... parce qu'en psychiatrie, il y a beaucoup de services, il y a des hôpitaux de jour, il y a des services qui font de ce qu'on appelle de la médiation pour resociabiliser des patients, les réhabiliter, c'est-à-dire en gros leur permettre de reprendre, d'intégrer tout un tas de repères pour réussir à être de plus en plus autonome en société. C'est des sujets qui depuis toujours nécessitaient l'appui du médecin, qui est quand même le coordinateur et qui est celui qui décide de comment va être pris en charge son patient de A à Z. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore se payer le luxe d'attendre cet aval médical alors que le médecin est complètement débordé parce qu'il est tout seul pour gérer ce qu'ils étaient 8 à gérer il y a encore quelques années? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être qu'on réussisse à changer la donne, à peut-être se dire que un groupe d'infirmiers, de psychologues, de psychomotriciens et que sais-je, d'assistantes sociales peuvent peut-être collégialement décider de ce qui est le meilleur pour le patient sans attendre à chaque fois un avis médical qui tardera à venir parce que malheureusement les moyens ne sont pas là. Donc ça, à un moment donné, effectivement, il faut que l'institution hospitalière se pose cette question-là, qu'on arrive à sortir de nos schémas un peu peut-être des fois archaïques où c'est très pyramidal, le médecin est là, il décide de tout et les autres ne décident de rien. Non, il va peut-être falloir pouvoir changer la donne un petit peu. On n'a pas les moyens de se payer le luxe d'attendre l'aval médical aujourd'hui. Il y a des patients qui ont besoin de réponses plus rapides que ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement, je pense, un sujet qui est d'actualité.
Cette année, la thématique des semaines d'information sur la santé mentale, c'est réparer le lien social pour notre santé mentale. Est-ce que le désert médical casse ce lien social et comment le rétablir?
Restaurer le lien social en santé mentale, ça évoque déjà qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés pour chaque patient qui souffre d'un trouble en santé mentale ou même plutôt psychiatrique des fois, de pouvoir être inséré dans la société. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont quand même été faits. On voit que ici et là, je le disais tout à l'heure, même si des fois on a l'impression que peut-être que ça se marche un peu les uns sur les autres, mais il y a quand même un tissu associatif qui quand même s'est développé. On a aussi des structures, je pense au Contraville à Laval par exemple, qui est géré par la municipalité, enfin par l'agglomération, qui fait aussi son boulot pour essayer justement de faire en sorte que la personne qui est en difficulté, qui a des troubles psychiques, psychiatriques, puisse à un moment donné pouvoir ne pas être isolé et bénéficier de ce lien-là, être orienté vers les bonnes personnes, assurer un suivi médical, parce qu'on le dit trop peu, on parle souvent du du patient psychiatrique et de ses soins psychiatriques, mais il y a le patient qui souffre de troubles psychiatriques et tous ses autres soins, parce qu'un patient, qui souffre d'une maladie psychiatrique grave ne va pas être en mesure de se prendre en charge et d'être autonome pour ne serait-ce qu'aller voir son dentiste, faire un bilan de santé, etc. Et on se retrouve avec des... j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de maladies chroniques, le nombre de maladies graves détectées trop tard chez des patients psychiatriques sont largement plus élevés que pour la population générale. Donc il y a un vrai sujet du comment aussi on peut aider un patient qui souffre d'une maladie psychiatrique grave à se prendre en charge sous toutes les dimensions, quelle qu'elle soit. Et effectivement, il y a eu des efforts qui sont faits, et je pense au Contraville, c'est ce qui me vient juste là, qui s'est développé ces derniers temps et qui concourt à ça. Après, effectivement, moi je reviens toujours à la même chose, mais on ne pourra pas non plus, on arrivera toujours à une situation de blocage tant que l'hôpital n'arrivera pas lui à un moment donné aussi à se relever un petit peu plus, parce que finalement tous les intervenants autour de la santé mentale et de la psychiatrie se retrouveront à un moment donné face à un mur tant que l'hôpital n'aura pas des moyens de répondre à des situations critiques ou urgentes. Donc il y a vraiment à un moment donné cette nécessité de renforcer l'hôpital et la psychiatrie à l'hôpital pour justement faire en sorte que l'ensemble des partenaires, que ce soit le médecin traitant, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les aidants, puissent à un moment donné permettre à chacune des personnes qui souffrent un jour d'un trouble en santé mentale ou qui malheureusement souffre d'une pathologie psychiatrique invalidante, handicapante, qui puissent à un moment donné l'aider jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas aider un patient qui est en crise aiguë et qui n'a pas de médecin psychiatre. Vous ne pouvez pas l'accompagner au quotidien pour ne serait-ce que lui faire son bilan sanguin dont il aurait besoin, l'accompagner vers le dentiste parce qu'il a une douleur dentaire. Enfin, s'il n'est pas accessible parce qu'il a surtout besoin avant tout de voir son médecin et de réévaluer son traitement psychiatrique, vous pourrez vous donner tous les moyens du monde, vous n'y arriverez pas. Donc la première des choses, c'est de faire en sorte... effectivement le suivi de base en psychiatrie puisse tenir la route pour qu'après tous ces aidants-là aient tous les moyens pour justement travailler les liens sociaux au sens large avec les patients souffrant d'un trouble psychique ou d'une souffrance psychique quelconque.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
L'agité du local, c'est un peu comme toi, indispensable.
La suite de l'émission nous emmène à Saint-Herblain pour le reportage Pensée locale de la semaine. Mais avant ça, un peu de tendresse, en tout cas, on va la réclamer avec Lucky Love. Écoutez.
J'ai trop rêvé dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je lance des SOS. Et je fous ma bouteille à la mer. Je cherche amour, beaucoup de tendresse. Câlin partout, beaucoup de caresses. Ciel toujours bleu, bisous, ça presse. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver. S'abstenir si par gentillesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Je me vois encore dans les nuages. Des grands bateaux, des paysages. Des formes longues, des grandes plages. C'était mon seul livre d'images. Je cachais mes rêves dans mon cartable. Entre mes livres et mes crayons. Des mots d'amour sur toutes les pages. J'ai pas grandi, je suis dans le coton. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Mais où ils sont, ce que j'attends. Depuis que je mange plus de sucre d'orge. Quelque part avec des enfants, c'est peut-être ça leur îlot trésor. Je voudrais voler vers le soleil. Avec tous ceux que j'aime qui m'aiment. voler plus loin que le gris du ciel, du côté où la vie est belle. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse, je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse.
Parfois, les plus belles idées germent dans les endroits les plus inattendus. À Saint-Herblain, les caves d'un HLM se sont transformées en champignonnières. Et oui, en 2023, l'association Environnement Solidaire a créé, dans le sous-sol d'un immeuble HLM de Saint-Herblain, une cave champignonnière. Cette initiative s'inscrit dans un programme de création d'emplois, d'aide alimentaire, de gestion des encombrants et d'amélioration de la vie quotidienne dans le quartier Bellevue. Pour comprendre comment une idée se transforme en réalité locale, Michel Souget de Alternante a tendu son micro à Marie-Hélène Nédelec, présidente de l'association Environnement Solidaire, aux salariés et à un habitant de l'immeuble.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Environnement Solidaire est une association d'agriculture urbaine, de gestion des encombrants et de services de proximité. En 2023, elle crée une champignonnière dans le sous-sol d'un immeuble HLM où se situe aussi son siège social, dans le quartier Bellevue, côté Saint-Herblain, une commune jouxtant Nantes. Avant de visiter ce lieu souterrain, Marie-Hélène Nédelec, présidente d'Environnement Solidaire, nous décrit très sommairement ce quartier.
C'est un quartier politique de la ville, avec un... Alors, je n'ai pas le pourcentage d'habitat social, mais voilà, c'est un grand quartier qui fait quoi, 15 000 habitants, je crois. Population diverse et variée, avec un certain nombre de personnes aussi en isolement, éloignées d'emploi et avec lesquels on essaye de monter des projets.
Combien de personnes sont concernées par d'abord l'association Environnement Solidaire et puis par la champignonnière ?
Disons que dans l'association, il y a différents types de possibilités d'intervention. Il y a à la fois des salariés, on a des salariés permanents, des salariés en insertion. On a un certain nombre de bénévoles réguliers et puis des bénévoles occasionnels. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que c'est en lien avec l'agriculture. Le mardi, on récupère les invendus du marché de Bellevue et on fait de la redistribution alimentaire et on fait de la cuisine aussi pour cuisiner un certain nombre d'invendus. Donc c'est vrai que mesurer les bénéficiaires, c'est compliqué. Il y a une trentaine de familles qui viennent tous les mardis. Il y a une douzaine de bénévoles qui viennent faire la cuisine et puis autrement, il y a les bénévoles sur les différents jardins puisqu'on a une dizaine de jardins qu'on accompagne chez les bailleurs sociaux.
En salariés encadrants, il y a combien de personnes ?
Alors aujourd'hui, alors parce que du coup, on en a deux qui sont absents en ce moment, on doit avoir 6 permanents et 4 personnes en insertion.
La champignonnière voit le jour à des travaux de rénovation.
Oui, on est dans le quartier du Grand Bellevue qui est dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain. Donc ce projet a été mené aussi, soutenu par l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, puisque le sous-sol de cette tour devenait inutilisé. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut utiliser cet espace, en faire quelque chose d'utile et aussi donner un peu une image positive aussi, créer de l'emploi sur le quartier pour cette champignonnière. Il y a eu des locaux pour les poubelles, des locaux vélos qui ont été installés. Les gens ont eu des balcons et les caves ont été supprimées parce que c'était source de problèmes plus que de solutions.
Généralement, les caves, c'est pour stocker.
Oui, mais il y avait une utilisation détournée de ces caves, qui a fait que ces caves sont supprimées. D'ailleurs, dans la plupart des logements, maintenant, il n'y a plus de caves qui sont mises en place chez les bailleurs sociaux.
On peut cultiver plein de végétaux en cave, mais vous avez choisi les champignons.
On a choisi les champignons et on ne produit pas toutes sortes de champignons. On produit uniquement des pleurotes et des shiitakes. Bio, on est labellisé bio par l'agence du bio pour avoir des produits de qualité et ça permet aussi aux habitants de découvrir ces produits que pour un certain nombre ils ne connaissaient pas jusqu'ici.
Et pourquoi pas les champignons de Paris ?
Les conditions de culture des champignons de Paris sont plus compliquées à mettre en œuvre, notamment aussi avec l'espace dont on dispose, puisqu'il faudrait descendre de la tourbe, etc. Enfin, je veux dire, les conditions d'accès ne sont pas très faciles et techniquement, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus facile à vendre. Si on a des champignons de Paris, on sait que c'est beaucoup plus facile à vendre, mais par contre, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc la préférence a été d'abord que les salariés se forment à la culture des pleurotes et des shiitakes. Peut-être un jour les champignons de Paris, mais pour le moment, on se limite aux pleurotes et aux shiitakes.
Je pensais que vous alliez me répondre parce qu'on est à Saint-Herblain, donc on ne peut pas faire des champignons de Paris. Sauf que le champignon de Paris, c'est un peu partout.
Oui, moi je suis originaire d'Anjou, il y en a pas mal dans les caves du Saumurois, entre autres.
Il y a la possibilité aussi de cultiver des plantes. Le pothos fait partie de ces plantes qui nécessitent peu de lumière. Et vous êtes dans la culture nourricière,
oui.
Pas décorative.
Oui, aujourd'hui on est vraiment axé sur l'alimentation avec les redistributions alimentaires. Voilà les salariés qui vont embaucher, qui se dirigent vers l'entrée de la tour.
Pensée locale, un enjeu de société.
Bonjour Axel, prêt à bosser ?
Dites-nous ce que vous allez faire.
Alors ce matin, nous allons faire la cueillette, la récolte, la veille, l'avant-veille, tout ce qu'on a laissé, parce que c'était pas encore assez mature. On a laissé des petits champignons. On réceptionne les pains de substrat aussi, donc c'est la même variété de champignons puisque nous en faisons deux, les shiitake et les pleurotes. Nous allons réceptionner donc des pains de substrat de shiitake. Je ne sais pas si on a fait une préparation de commande hier, donc nous allons livrer au carré des services, c'est toi qui t'en es occupé, mon collègue. Nous allons aller livrer au carré des services nos caisses de champignons. Voilà, pour ce matin je crois.
Est-ce que ces ballots sont lourds à porter ?
Ah non, les pains de substrat, ça fait quoi, 1,5 kg, 2 kg? Je sais pas, c'est des pains qui font 50 sur 20.
Je pense que c'est une tonne à chaque fois, à chaque livraison, une tonne de substrat qui arrive et qu'il faut descendre.
Donc ça fait quand même quelques pains. Ça va être ma première livraison de pain, en ce qui me concerne.
On va descendre avec toi, Violette?
Oui. On se dirige à la champignonnière, donc on passe par le hall de l'immeuble.
C'est bien de me décrire l'itinéraire.
Et on fait comme si on allait dans une cave d'immeuble. Donc faut un peu imaginer les trucs. Nous sommes arrivés dans la champignonnière. La première salle par laquelle on passe, c'est la salle de nettoyage. Dès qu'on arrive, en fait, on se lave les mains, on se désinfecte les mains pour rentrer dans les conditions, les normes sanitaires voulues. On a aussi tout l'espace pour nettoyer toutes les caisses qui nous servent à conditionner les champignons par la suite. Donc c'est vraiment la salle de nettoyage-désinfection.
On est bien dans un sous-sol d'immeuble.
Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la champignonnière ne bat pas encore son plein. C'est pour ça qu'on reçoit encore du substrat aujourd'hui. Mais à la place de chaque ancienne cave individuelle, on a tout le matériel qui est fait pour installer les substrats de champignons qui vont pousser plus tard.
Les portes ont été remplacées ?
Oui, les portes ont été remplacées par des lanières en plastique pour éviter justement la transmission de spores et d'autres champignons de salle en salle.
Une des premières choses qui a été mise en place, c'est une chambre froide. Puisque pour conserver les champignons et les substrats, on avait fait une expérimentation avant, mais sans chambre froide. Et du coup, une fois que ça sortait, il fallait tout vendre aussitôt, etc. Alors c'est une chambre froide qui a été montée sur place. On est obligé ici d'avoir du matériel qui est imaginé, construit sur place, puisque dans l'ascenseur, on ne peut pas passer des gros volumes. Donc tout ça, ça a été monté avec Romain du champignon urbain qui nous a accompagnés pour imaginer quel système on pouvait mettre ici pour la ventilation, l'extraction, etc.
Je vois que vous acceptez les araignées.
Ah bah ça fait partie des habitants du sous-sol.
Oui, c'est pas contre-indiqué
non,
pour les champignons.
Non, ils sont là dans ce couloir, mais dans les salles, vous n'allez pas trouver les mêmes... On est contrôlé par l'agence bio, labellisé, donc voilà.
Là, c'est les pleurotes, ici.
Comment on les reconnaît ?
Pour les pleurotes, il y a un plastique noir autour qui est pré-percé. Et quand le champignon sort, il sort par ces trous-là. Ça sort en bouquet. Je ne sais pas s'il y a une des salles où il y a des bouquets sortis.
En tout cas, il y a une odeur sympathique.
Oui, bah ça sent l'humus, voilà.
Voilà, la cueillette.
On est sur du...
Shiitake.
Votre rôle, c'est de cueillir les champignons.
Oui, c'est moi qui ramasse tout.
Dès qu'ils sont sortis, vous les cueillez.
Oui.
Qu'ils soient petits ou gros.
C'est gros.
Les petits, vous les laissez ?
Deux jours, trois jours.
Ça met combien de temps à pousser un champignon ?
15 jours.
15 jours. Votre prénom ?
C'est Mouagui.
Tout n'est pas en culture encore. On fait au fur et à mesure, puisqu'on a fait une interruption pendant l'été. L'été n'est pas propice à la culture des champignons et ça permet aussi d'avoir les congés des salariés. Et on a redémarré en septembre la mise en culture, donc on va monter progressivement sur le nombre de salles. Et puis après, la problématique, c'est aussi il faut trouver des débouchés, il ne faut pas seulement les produire.
Les ascenseurs sont condamnés ?
Non, ils ne sont pas du tout condamnés. Il y a un code d'accès pour pouvoir descendre au sous-sol. On limite quand même les accès.
On va sortir. Vous êtes un consommateur de champignons.
Un grain. Surtout habitant de l'immeuble.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ?
C'est un projet formidable. Parce que déjà, comme vous savez, ici dans notre immeuble, les caves là, c'était l'enfer. C'était que des petits jeunes qui squattaient en bas et faire le bordel. Donc là, maintenant qu'on a réussi à retirer des bénéfices pareils pour les habitants, surtout.
Merci à Marie-Hélène Nedelec et merci à
Axel,
Violette, Mouagui,
Fadi
pour leur libre participation à ce reportage sur la champignonnière gérée par l'association Environnement Solidaire de Saint-Herblain.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternant FM.
De l'inventivité dans les sous-sols à la vigilance dans nos achats, il n'y a qu'un pas. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Guinaudot pour la chronique de l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne, association de défense des consommateurs. On parle aujourd'hui des contrats d'électricité.
Bonjour Margot. Après près de 50 ans de monopole, ou presque, d'EDF comme producteur, transporteur, distributeur et fournisseur d'électricité en France, monopole voulu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont décidé, en 2005, une application du principe de la libre concurrence des marchés, telle que voulue par l'économie capitaliste libérale, d'ouvrir le marché de l'électricité. Les fonctions de production, transport, distribution et fourniture ont été attribuées à des entreprises différentes. Ce qui intéresse le consommateur, ce sont les fonctions de distribution et de fourniture. Pour la distribution, ça reste monopolistique avec Enedis comme seul opérateur qui gère les lignes moyenne et basse tension et les compteurs. Mais pour la fourniture, il s'est créé des dizaines d'entreprises qui achètent le courant à de nombreux producteurs au prix du marché et payent une redevance aux transporteurs. Notons que le fonctionnement de la distribution du gaz est sensiblement le même avec GRDF et les fournisseurs de gaz.
En quoi cela impacte-t-il notre facture ?
Les fournisseurs sont en concurrence les uns avec les autres, tant pour l'achat de l'électricité que pour la vente, c'est-à-dire la recherche de nouveaux clients. Lors de la libération du marché, il a été créé un prix dit réglementé, c'est-à-dire décidé par l'État. Ce système fonctionne encore pour l'électricité, mais a été supprimé pour le gaz. C'est le prix TRV, pour tarif réglementé de vente, qui n'est proposé que par EDF. Il évolue deux fois par an. Il sert souvent de base pour les tarifs des autres contrats. Il y a deux grilles tarifaires, le tarif bleu et le tarif heure pleine et heure creuse. Pour se différencier, les fournisseurs font preuve d'imagination, notamment avec des tarifs week-end, pour ceux qui peuvent regrouper une grande partie de leur consommation le week-end, comme les personnes s'absentant de chez eux durant la semaine pour leur activité. En effet, la consommation d'électricité baisse pendant le week-end, en raison de l'arrêt des industries, et même des bureaux. Le prix d'achat est en fonction de la demande. L'électricité est moins chère le week-end. Ces contrats peuvent être fixés pour 1 ou 2 ans, ou évoluer selon le TRV, ou un autre indice.
Ça m'a l'air assez compliqué à gérer.
Eh oui, pour le fournisseur, c'est l'informatique qui gère. Mais pour le particulier, c'est en effet plus compliqué. Et ce n'est pas fini. Avec le développement des énergies renouvelables, les producteurs doivent gérer des pics de production des panneaux solaires au moment de l'ensoleillement maximum, ce qui ne correspond pas forcément aux besoins. Certains fournisseurs proposent une baisse de tarifs si la consommation du particulier est plus importante que d'habitude pendant une plage horaire transmise 24 heures auparavant. Ceci en fonction des prévisions météo. D'autres augmentent fortement leurs tarifs lors des périodes de très forte consommation, comme en hiver, avec préavis de 24 heures, moyennant un tarif courant moins élevé. Les plages horaires des heures pleines et des heures creuses sont définies par Enedis. Une expérimentation va être lancée pour faire évoluer ce système vers plus de souplesse pour le fournisseur en fonction de la fourniture prévisible des énergies renouvelables. Ce sera au consommateur de faire l'effort de consommer pendant les périodes creuses qu'on lui aura indiquées au jour le jour. En attendant, le consommateur peut changer de fournisseur quand bon lui semble, en souscrivant un contrat auprès du concurrent moins cher, ce dernier se chargeant des formalités administratives. Les comparateurs de Que Choisir et du médiateur de l'énergie peuvent guider son choix. Un conseil, ne jamais signer un contrat lors d'un démarchage à domicile.
Merci Jean-Michel Guinaudot, rappelez-nous les coordonnées de votre association.
L'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18. Par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement ou sur un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services. À bientôt.
Merci Jean-Michel Guinaudot, à bientôt. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sylvain Biel d'être passé au studio pour répondre à nos questions. Merci au chroniqueur du jour, Jean-Michel Guinaudot, pour l'UFC Que Choisir de la Mayenne. La musique de votre émission quotidienne est signée les Nike Folzor et cette émission touche à sa fin. Mais ça continue sur les ondes de l'autre radio avec Novorama. Pour bien commencer la soirée à 19h, c'est le rendez-vous qui vous permet de découvrir les nouveautés indie rock, pop et électro. Avant d'écouter à 21h Noiserus, il semblerait que pour cette seconde émission de la saison, on reste dans le thème des sports extrêmes. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec l'association ICAR pour parler d'exil et de santé mentale en se posant la question de comment le lien social devient ici une condition de survie. D'ici là, considérons ce mercredi comme une parenthèse au milieu de la semaine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Faites-en ce que vous voulez. Mais surtout, s'il vous plaît, faites le bien.
Allez, on vous laisse tranquille.
Mais on revient demain, ne nous oubliez pas.